Du 3 au 13 décembre, hashtag 2050 le podcast, votre shoot de futur, passe en édition spéciale, ancrée dans le présent, à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. 10 jours d'une quotidienne pour comprendre la COP, découvrir les acteurs qui y contribuent, des initiatives, mais aussi entendre des voix peu entendues et pourtant engagées dans la lutte contre la crise climatique. Parce que le futur de notre planète se joue ici et maintenant. Les peuples indigènes de nombreux points du monde, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, sont présents ici à la COP25 pour revendiquer le respect de leurs droits et leur contribution à la préservation de la biodiversité, à la limitation du changement climatique. Dans les conférences auxquelles ils participent, les références à leur rapport à la Terre sont souvent au cœur de leur argumentaire. J'ai pensé d'ailleurs immédiatement à Lorena Cabnal, féministe communautaire au Guatemala, qui défend l'idée de « corps-territoire » et de « territoire-terre », je la cite. « En tant que femmes en lutte, nous faisons corps avec les luttes territoriales. En fait, d'ailleurs, ce sont surtout des femmes qui mettent leur corps en jeu et qui sont en première ligne contre la police, l'armée ou les groupes paramilitaires déployés pour occuper le territoire des futures mines ou barrages. » Il y a ces luttes au quotidien sur le terrain, et puis il y a aussi le plaidoyer international, comme ici à la COP. J'ai envie dans cet épisode de m'arrêter sur deux aspects de ce combat. Le premier sur les droits des peuples indigènes, le second sur les dispositifs financiers de soutien aux populations à travers la notion de pertes et dommages. J'ai rencontré Robinson López Descansa. Il est colombien et est entre autres le coordinateur changement climatique et biodiversité de la COICA, la coordination des organisations indigènes du bassin amazonien. Je lui ai d'abord demandé quelle était la situation climatique et environnementale en Colombie.
En ce moment, la Colombie traverse une crise environnementale et humanitaire sans précédent. Il y a beaucoup de perturbations du territoire, de la vie des peuples indigènes. Il y a des violations des droits humains et des infractions aux droits humanitaires internationaux. Plus de 135 leaders indigènes assassinés à ce stade sous le gouvernement et la présidence d'Ivan Duque en un an et demi de gouvernement. Ce qui est très grave. Il y a de la déforestation dans les territoires indigènes. Il y a d'énormes projets pétroliers, miniers, avec l'utilisation de la fracturation hydraulique, par exemple, qui affecte l'aquifère, l'épandage de glyphosate sur les terres où sont les chakras des peuples indigènes, là où est la vie, là où sont les plantes sacrées. Cela génère de grands impacts sur la culture, la médecine, sur le patrimoine, sur les connaissances des peuples indigènes. Depuis, l'Organisation des peuples indigènes d'Amazonie colombienne, qui est l'organisation à la base de la COICA en Colombie, a présenté un agenda environnemental de dialogue et de concertation dans le cadre d'une grève nationale qui s'est développée en Colombie, afin que le gouvernement colombien puisse répondre à ces demandes et à ce retard historique à l'encontre des peuples indigènes, et par-dessus tout respecter les accords passés pour apporter des solutions aux enjeux de l'environnement, des droits humains, de la culture, de l'éducation, des territoires et plus.
El tema cultural, el de educación, el de territorio y demás.
Et les peuples indigènes, ont-ils voix au chapitre dans les négociations internationales sur le climat? Sont-ils écoutés par les États négociateurs? Robinson est clair et net.
C'est très difficile. Nous exigeons une participation directe des peuples indigènes à la conférence sur le changement climatique. En ce moment, j'attire l'attention des gouvernements sur le fait qu'ils doivent écouter les peuples indigènes et les acteurs. Ils ne peuvent continuer à se mettre d'accord seuls. Ils ne peuvent continuer à parler seuls. Ils ne peuvent continuer à exclure les peuples indigènes du dialogue sur le changement climatique. Nous, les peuples indigènes, sommes ceux qui ont vécu des millénaires sur ces territoires. Nous sommes ceux qui les protègent. Aujourd'hui, nous présentons une feuille de route carbone sur le bassin amazonien sur 9 pays où il y a 7,5 millions d'hectares, 516 peuples indigènes, plus de 13,5 millions d'indigènes, un territoire où sont les ressources les mieux préservées. Nous sommes efficaces dans la protection des forêts. C'est pour cela que les gouvernements devraient nous permettre de participer, doivent nous écouter lors des conférences. Nous ne devrions pas être dans des événements parallèles, mais à l'intérieur des négociations, là où sont les discussions. Puissent-ils nous entendre ainsi que les Nations Unies? Tout le système des Nations Unies devrait inclure les peuples indigènes dans ce dialogue, dans ces conversations. Au contraire, c'est un dialogue de sourds. Nous en sommes à devoir mener des actions. Aujourd'hui, le monde demande qu'ils agissent. Nous demandons qu'ils agissent concrètement contre le changement climatique, mais ça ne fonctionne pas.
Les marchés carbone, un épisode y était consacré la semaine passée, ils les concernent de près, puisque leurs corollaires, les systèmes de compensation et de puits de carbone, touchent notamment le secteur du bassin amazonien. La position de la COICA n'est pas tranchée.
Le marché carbone. En ce moment, les peuples indigènes sont dans des régions où sont arrivées des entreprises. Des entreprises, des ONG pour payer des incitations à la conservation du carbone. Et ils ne consultent pas les organisations à la base. C'est le problème. Ils arrivent avec une méconnaissance, sans information. Et il n'y a rien à gagner pour les peuples autochtones. Le marché carbone peut être une alternative, c'est possible. Nous, à la COICA, nous disons que nous respectons cette initiative si elle respecte et prend en compte la consultation et le consentement préalable, libre et informé des peuples indigènes. Nous devons être informés de son fonctionnement, quel est le mécanisme d'investissement, de production, de protection des forêts et quelles sont par-dessus tout les opportunités que cela apporte aux communautés. Nous disons que nous avons besoin d'informations suffisantes, d'exemples, de formations pour que les peuples autochtones puissent déterminer si ces mécanismes sont efficaces ou pas, ou au contraire s'ils vont affecter ou exacerber ces problématiques. Donc en ce moment, nous sommes demandeurs d'une série de formations pour renforcer les capacités afin d'avoir l'information et ensuite de déterminer si cela convient ou pas. Et ce sujet du carbone pourrait nous aider à limiter ou à chercher des alternatives pour un système soutenable. Mais c'est toujours un sujet de discussion, pas encore tranché.
Néanmoins, en attendant d'être assis à la véritable table des négociations, Robinson se fait le porte-voix de deux messages clés à l'occasion de cette COP.
Premièrement, respecter la consultation et le consentement préalable, libre, éclairé des peuples indigènes et que les États, tant en Amérique latine qu'en Europe, qui n'ont pas reconnu ce qui a été convenu, s'engagent à le ratifier. La consultation préalable est une garantie des droits face à tous ces méga-projets qui nous affectent et ne nous respectent pas. Le second message au monde et au gouvernement présent à la COP, il faut voir et reconnaître les savoirs ancestraux des peuples indigènes et leur rapport à l'atténuation du changement climatique.
Tout au long de la COP, de nombreuses actions sont menées pour alerter sur le sort des populations locales à la base, confrontées aux sécheresses et aux inondations, aux déforestations avides, aux pillages méticuleux de leur environnement nourricier. Face à ces désastres écologiques, comment répartit-on le monde ? Un des dossiers posés sur la table des négociations, alors je ne sais pas s'il est haut placé sur cette pile de sujets, en tout cas, la question de pertes et dommages est sur la table. Il s'agit là d'accompagner financièrement les territoires touchés, un peu un état de catastrophe naturelle planétaire. Sauf qu'elles n'ont pas grand-chose de naturel, in fine, vous l'avez compris comme moi. L'article 8 de l'accord de Paris réaffirme l'ambition de ce mécanisme de pertes et dommages. Mais à suivre les échos des négociations en cours, les pays du Nord tentent de décorréler les impacts subis par un certain nombre de pays du Sud des facteurs climatiques pour alléger le poids des préjudices à intégrer au dispositif. Nous en reparlerons dans l'épisode consacré au Bénin plus tard cette semaine. D'ailleurs, peut-être avez-vous entendu parler du Fonds vert pour le climat, pour lequel les pays du Nord promettaient 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020 pour aider l'adaptation dans les pays du Sud. En 2017, c'est 71 milliards qui étaient dans la corbeille, dont 40 sous forme de prêts. D'où la remarque du ministre zambien du Développement citée par le journal Le Monde. Finalement, nous nous endettons pour payer la facture du réchauffement dont nous ne sommes pas responsables. J'ai voulu discuter de ce sujet avec Arjit Singh. Il est le référent international climat de l'ONG ActionAid International. Pour info, ActionAid travaille dans 46 pays contre la pauvreté et l'injustice. Et comme le changement climatique est le résultat d'injustice et cause plus d'injustice et d'inégalités encore, l'ONG s'est emparée de ces questions. J'ai commencé par lui parler argent, parce que c'est de cela dont il s'agit.
Très clairement, une grande part de l'argent doit venir de sources publiques. Et il y a beaucoup d'options innovantes de financement qui sont là, basées sur la taxation des énergies fossiles, les taxes financières. Il y a plusieurs façons de faire, comme déplacer les subventions aux énergies fossiles. Donc ce n'est pas un problème d'argent disponible, cela relève d'un niveau politique. Il s'agit de vérifier où l'argent va, et actuellement, l'argent public sert à abîmer la Terre bien plus qu'à aider les gens. Donc nous devons vraiment reprioriser et choisir où vont les financements publics et comment ils peuvent créer de nouvelles solutions innovantes auxquelles pourvoir. Ça n'a pas lieu, et c'est ce vers quoi nous poussons.
À écouter certains side events à l'occasion de cette COP, je me suis posé la question de l'idée même de solidarité. Est-elle suffisante pour répondre à la crise climatique ?
Pour toute question humanitaire, vous savez, il s'agit de solidarité. Nous devrions tous accepter, reconnaître et promouvoir la solidarité. Mais au point où nous sommes arrivés maintenant, cela va plus loin que de la solidarité. Il s'agit d'obligations. Les pays qui ne sont pas responsables de la crise font face à l'urgence climatique. Les pays riches et les entreprises qui ont provoqué cela doivent maintenant payer en compensation et réparation. C'est ce à quoi nous appelons.
Argent, solidarité et solutions pratiques. L'une d'entre elles consiste en la création d'un passeport pour les réfugiés climatiques, à l'image du passeport Nansen, créé dans l'après-Première Guerre mondiale.
Absolument, c'est un bon point. Il s'agit d'un droit à la mobilité, en particulier lorsque les gens sont forcés à se déplacer, ils devraient avoir un passeport qui les autorise à vivre dans un endroit sûr. Un passeport international pour les réfugiés climatiques nous semble être l'une des options les plus justes que nous ayons, qui prend en compte les droits humains et la justice. Donc je pense que ce genre d'option doit clairement être explorée au niveau international.
Mais dans un monde où les nationalismes font recette, un tel passeport n'est-il qu'une douce utopie ?
C'est ce que nous devons comprendre et qui est à l'origine du problème. À quel point les gens souffrent et ces messages doivent être entendus. Les citoyens qui pensent que les migrants viennent prendre leur travail devraient comprendre pourquoi ils sont contraints à sortir de leurs frontières. Ils ne le font pas de leur plein gré. La majorité d'entre eux n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas, vous savez, ils se battent pour survivre. Nous devons comprendre qu'il y a ici une question d'humanisme, de justice. Et une fois que l'on parle de cela, je suis sûr qu'on est capable de promouvoir une plus grande solidarité planétaire telle que nécessaire.
Enfin, j'ai demandé à Harjit ce qui ferait, selon lui, de cette COP un succès.
C'est un enjeu central. Nous sommes ici pour demander un dispositif de financement pour traiter le sujet des pertes et dommages, et de savoir comment l'argent doit être transféré aux pays. Alors que nous parlons actuellement, 60 millions de personnes en Afrique souffrent des impacts du changement climatique. 9 millions de personnes n'ont pas suffisamment de nourriture, et le problème s'intensifie. Leur apportons-nous le soutien en tant que membres de la communauté climatique ? Non. Donc nous devons créer un système où l'argent commence à aller à ces pays afin qu'ils puissent apporter de l'aide à leurs ressortissants. Et ce système signifie que nous devons mettre en place un dispositif financier. C'est absolument un point de mesure du succès et nous voulons le voir advenir pour que nous puissions le rendre opérationnel en un an.
J'ai envie de vous laisser avec une lecture, un extrait d'un texte de Vandana Shiva, qui s'intitule « Étreindre les arbres ». La rupture au sein de la nature et entre l'homme et la nature, ainsi que sa transformation corrélative d'une force vitale nourrissante en une ressource exploitable, caractérise la vision cartésienne qui a rejeté encore bien d'autres conceptions écologiques du monde et créé un paradigme de développement qui affecte simultanément la nature et la femme. Le changement ontologique en faveur d'un avenir écologiquement durable a beaucoup à gagner de la vision du monde, des civilisations anciennes et des diverses cultures qui ont survécu de manière durable au fil des siècles. Elles étaient fondées sur une ontologie du féminin comme principe de vie et sur une continuité ontologique entre la société et la nature, l'humanisation de la nature et la naturalisation de la société. Non seulement cela résultait d'un contexte éthique qui excluait les possibilités d'exploitation et de domination, mais cela a également permis la création d'une famille terrienne. L'ontologie dichotomique de l'homme dominant les femmes et la nature génère un mal développement parce qu'elle fait du colonisateur mâle l'agent et le modèle du développement. Les femmes, le tiers-monde et la nature deviennent sous-développées, d'abord par définition, puis en réalité à travers le processus de la colonisation. L'ontologie de la dichotomisation génère une ontologie de la domination sur la nature et les personnes. épistémologiquement, elle conduit au réductionnisme et à l'atomisation, ce qui mène à la violation des femmes en tant que sujet et de la nature en tant qu'objet de connaissance. Cette violation, en ce qu'elle est une perturbation des perceptions écologiques de la nature, devient une source de violence épistémique et réelle. Alors ce texte, vous pouvez le retrouver dans le merveilleux recueil Reclaim, recueil de textes écoféministes choisis et présentés par Émilie H, publié en novembre 2016 aux éditions Cambourakis. J'espère que cet épisode et ces rencontres vous ont permis de mieux entendre, comprendre les enjeux qui sont actuellement en débat. Merci à Robinson et Arjit pour avoir répondu à mes questions. Merci à Maxime et Benjamin pour le prêt de leur voix. Toi-même, tu sais, n'hésitez pas à partager, commenter, recommander cet épisode. Vous pouvez même me poser des questions sur la COP grâce à mon répondeur. Et ne ratez pas les liens en description de l'épisode qui vous permettront d'en apprendre toujours plus. On se retrouve bien vite et d'ici là, soyons toujours curieux.